sur le podcast de l'Institut V qui va à la rencontre des professionnels de la gastronomie végétale. Je suis Karine Castro et je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode pour vous présenter Michaël Véron, chef pâtissier et fondateur de la marque Siba Végétal. Siba, ce nom vous intrigue ? Allez, je vous explique tout. L'aventure commence à Avignon alors que Michaël et sa compagne Camille souhaitent créer une marque à leur image. Et leur choix de projet se tourne vers la glace artisanale 100% végétale. Les glaces, on aime tout ça. En été comme en hiver, elles font partie de notre vie et nous invitent à un moment de rafraîchissement. Et bien derrière Siba, il y a l'idée de procurer une forme de gourmandise saine et naturelle à travers un produit pur et libre de tout superflu. Bon, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma discussion avec Michaël que je suis ravie de vous présenter aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Michaël.
Salut Karine.
Comment vas-tu ?
Très bien, merci.
Super. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce nouvel épisode pour parler d'un sujet d'actualité, puisqu'à l'heure où nous enregistrons cet épisode, nous sommes en plein mois d'août. Et en cette période estivale qui rime avec l'envie de glace, ça tombe très bien puisque grâce à toi, on va dorénavant pouvoir manger des glaces 100% végétales.
C'est ça, tout à fait.
Bon, bah, tu as créé effectivement la marque Siba avec ta compagne Camille, dans l'idée de proposer des glaces artisanales 100% végétales. Et c'est à Avignon que vous avez développé ce projet, puisque vous y habitez aussi. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, nous raconter un petit peu qui tu es, ton parcours, d'où tu viens, ce que tu fais?
Ça marche. Donc, Michaël Véron, ancien chef pâtissier en restauration étoilée. Alors moi, pour ma part, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai suivi un cursus dans une école hôtelière, donc l'école hôtelière d'Avignon, où j'ai commencé par faire 2 ans de cuisine parce qu'il n'y avait pas de formation proche pour faire de la pâtisserie. Alors, j'ai commencé par ça pour voir ensuite m'aiguiller sur un diplôme de pâtisserie. Donc, j'ai fait mes 2 ans de cuisine à l'école hôtelière à Avignon. Dans cette même école-là, je suis parti vers un diplôme de pâtisserie de dessert en restaurant. J'ai eu la chance de tomber sur un professeur qui était passionné, qui est maintenant meilleur ouvrier de France, glacier et champion du monde de Coupe du monde de glace aussi. Donc voilà, toujours dans cette dynamique avec lui, à la recherche de nouvelles choses, de l'excellence, de la régularité. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup servi. J'ai fait mon apprentissage dans des petits restaurants dans des modestes qui n'étaient très bien, mais sans étoiles au départ. Ensuite, je suis parti sur Paris pour me former parce que je savais très bien que c'était un plus sur mon CV. Donc 2 étoiles Michelin au Grand Véfour dans le premier. Ensuite, je suis redescendu sur Avignon en province et là j'ai travaillé dans les grands restaurants étoilés d'Avignon qui sont Christian Etienne. J'ai travaillé aussi chez Serge Chenet à Pujeaux, qui est une ville juste à côté d'Avignon. J'ai également, je suis retourné dans mon premier établissement au château de Mazan. J'ai pris mon premier poste de chef pâtissier, de chef de partie pâtisserie. Ensuite, j'ai pris mon poste de chef pâtissier dans un hôtel-restaurant qui est l'Hôtel d'Europe, à Avignon, où j'ai officié pendant un peu plus de 3 ans. Après ça, nous sommes partis avec Ami justement en Amérique du Sud pendant plus d'un an parce qu'on avait envie de découvrir un petit peu des contrées nature, celles qui étaient le plus sauvages encore, qui nous permettent d'avoir le plus d'air possible. Parce qu'on avait un peu marre de ce rythme de fou de restauration. Et c'est un petit peu à travers ça que l'idée a germé, où on s'est dit, il y a un vrai retard en France sur le végétal. Il y a énormément de demandes à l'étranger et surtout sur d'autres continents. Et donc, c'est un petit peu de là qu'est venue l'idée. Ensuite, quand on est revenu, on a repris nos postes, nos postes de responsable, moi un poste chez pâtissier, Camille, un poste de responsable hein, en communication. Je me suis lancé un petit peu sur la formation pendant un an à peu près. Donc, j'interviens maintenant en tant que formateur chez les professionnels sur la partie pâtisserie, boulangerie et glacerie aussi, du coup, une nouvelle corde à mon arc. Et aussi un petit peu de chocolaterie, sur tout ce qui est pièces artistiques.
Mais en traditionnel ou en végétal?
Non, en traditionnel.
Oui.
En traditionnel. La seule branche, la seule corde à mon arc végétal que j'ai, c'est sur la glace aujourd'hui. Je n'ai pas assez penché sur la pâtisserie végétale pour me permettre de pouvoir proposer des formations. J'ai quelques recettes, mais je n'en ai pas encore fait suffisamment pour pouvoir dire. Pouvoir mettre en tant que formateur aujourd'hui sur ce modèle-là. Et puis donc on a créé juste après ça ben Siba qui est donc cette marque de glace artisanale végétale. Donc on a créé l'entreprise il y a 2 ans. On a mis plus d'un an à trouver la formule secrète pour pouvoir arriver à une texture, à une onctuosité la plus proche d'une glace conventionnelle. Et ça fait 1 an qu'on a lancé les premiers produits et chaque produit nous demande une R&D de dingue à chaque fois. Il a fallu tout décortiquer.
En
Voilà.
2020, lancement de la marque en 2020.
C'est ça. Lancement de la création de la boîte en 2019 et lancement des premiers produits en 2020.
Pourquoi ce nom si bas?
Alors Siba, ça vient de Sibarite. Sibarite, c'est un peuple de la Grèce antique qui ne vivait que pour le plaisir. Et on voulait apporter une connotation épicurienne et gourmande gastronomique à notre nom. Et on voulait sortir un petit peu du cliché, de ce cliché peut-être un peu militant. Et à travers ce nom-là, on voulait justement s'adresser à tout le monde. Ça nous permettait de démocratiser vraiment notre produit et de le rendre gastronomique, gourmand, mais pas seulement à des gens qui sont intolérants.
Tu nous as parlé de ton parcours en tant que pâtissier dans tous ces établissements prestigieux. Comment cette expérience te sert aujourd'hui dans ton projet?
Elle me sert évidemment, dans un premier temps, avec tout ce que j'ai appris, avec toutes les techniques, la rigueur, et puis ma vision de créativité. Là où ça a été plus compliqué, c'est que comme j'ai reçu comment dire, un enseignement conventionnel, il a fallu que je me sorte de tout ça. Le lait, la crème, le beurre, les œufs, c'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on comprend. Pour tenir une pâte, il faut des œufs et du gluten, et autrement, c'est compliqué, quoi. Donc, il a fallu reprendre tout ça, il a fallu faire des essais, il a fallu se documenter. Alors, il y a 3 ans, on n'avait pas les mêmes avancées qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de personnes sur le coup. On était vraiment aux prémices. Il y avait vraiment pas grand-chose. Alors, il y avait un petit peu de graines de chia, un petit peu de graines de lin, quelques alternatives au gluten avec de la farine de riz, ce genre de choses. Mais c'était vraiment pas concluant, quoi. Il y avait pas encore de vrais professionnels qui s'étaient mis dessus. Et aujourd'hui, depuis 3 ans, on voit que vraiment il y a eu un essor fantastique, surtout dans les grandes villes, parce que forcément il y a une plus grosse concentration de population, donc il y a plus de clientèle. Mais on voit que aussi les grands chefs s'y mettent, et ça c'est génial parce que ça apporte de la crédibilité à une nouvelle manière de consommer.
Absolument. Donc, vous avez fait un gros travail autour des ingrédients, parce que tu me disais que le premier constat, c'était de voir toutes ces utilisations d'additifs, de sucres raffinés dans les glaces. Donc, il y a eu un gros travail de décortiquage presque pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus léger, de plus végétal.
Tout à fait. Ça a été la première étape, le premier constat, quand on s'est dit, bon, on va faire de la glace. Au début, ben, on s'est dit, on va faire du sorbet. Après, on s'est dit, on va faire du sorbet aux légumes. Et puis, on s'est dit que ça n'allait pas forcément nous convenir. Donc, Dans un premier temps, on a pris des recettes classiques de glace que j'utilisais, qui étaient très bien calculées ou d'autres un peu moins. Et puis on s'est mis à acheter les ingrédients, mais sauf qu'en achetant les ingrédients, on s'est rendu compte que ni on savait comment c'était fait, ni on savait comment c'était, d'où ça venait, pardon. Et souvent, c'était des additifs.
Oui.
Donc on se retrouvait un petit peu avec des cocktails un peu dingues. Donc ça nous convenait pas. Donc petit à petit, on a essayé de les remplacer. Donc la première étape, ça a été le sucre. D'utiliser des sucres non raffinés. Ensuite, donc on s'est tourné vers tout ce qu'il y avait au départ, hein, sucre de coco, sucre d'agave, sucre de pomme, sucre les dattes aussi. Le problème qu'on a rencontré et qui s'est posé, c'est que c'était l'approvisionnement. Et nous, on voulait essayer de rester au maximum dans un approvisionnement français pour rester vraiment dans nos fondamentaux qui étaient un produit sain et local. Donc finalement, c'était rabattu vers un sucre de pomme que faisait l'entreprise dans le Gard. Donc c'était pas mal, mais ça n'avait pas un point anticongélant assez élevé. Donc les glaces restaient dures, ou alors il fallait les sucrer beaucoup pour qu'elles aient une texture suffisamment souple quand on les sortait du congélateur. Ou alors il fallait avoir une turbine à glace et avoir une vitrine réglée comme un glacier. Mais ça, c'est pas tout le monde qui a ce type de matériel à la maison. Surtout que notre canal de distribution était de s'adresser au restaurateur. Donc il fallait quand même qu'ils puissent l'utiliser. Donc ça a été ça a été un premier constat. Ensuite, second constat, ça a été sur la partie des produits techniques comme les stabilisants, qui eux, pareil, sont souvent des cocktails à base de sucre, d'émulsifiants ou alors comment dire, de carragénane, qui sont souvent qui sont pour la plupart des additifs, ou en tout cas qui sont dans la liste des additifs qui sont plus ou moins dangereux. Et ensuite, la troisième étape, ça a été sur la partie du goût animal, qui elle, donc, s'était fait souvent à base de lait, de crème, où on voulait, nous, apporter quelque chose de plus durable sur la partie process. Voilà. Donc, à la place des laits conventionnels, on a commencé à travailler avec des laits végétaux. On a commencé à travailler avec des laits de noisette, des laits d'avoine, des laits de chanvre, des laits de sarrasin aussi. Donc, on a commencé par sourcer les matières premières en France, en bio. Ensuite, il a fallu décortiquer les laits pour pouvoir calculer les valeurs nutritionnelles de chaque produit et avoir la quantité de fibres et de protéines sur chaque produit, parce que ça venait également rentrer dans la composition. Et puis pour la partie technique, on a surtout travaillé avec des fibres et des protéines végétales qui vont jouer un peu le rôle d'une fécule, qui vont permettre à la fécule de lier l'eau et d'éviter une recristallisation de l'eau une fois congelée. Et ensuite, c'est un savant équilibre entre tous ces ingrédients qui nous a permis de sortir les recettes.
Donc on voit qu'il y a plusieurs chantiers en fait qui se chevauchent hein, entre la technicité de la glace, les problématiques des additifs, des produits animaux, de la conservation aussi.
Tout est en lien sur la technologie de la glace. C'est vraiment quelque chose de très complexe. Alors, il y a déjà sur la glace conventionnelle, c'est vraiment tout un débat. Il y a déjà aussi plusieurs manières de fabriquer la glace. Il y a vraiment une différence entre la gelato et la crème glacée. Donc, la crème glacée, ça vient principalement des États-Unis. Donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus foisonnées avec beaucoup plus de matière grasse. Alors que la gelato, il y a moins de matière grasse et il y a moins d'air dedans.
Et là, on ne parle pas de sorbet, hein. On n'est que
Non, non, on
dans
parlait
la glace.
exclusivement de crème glacée.
Ouais.
Les sorbets, ensuite, c'est quelque chose qui a été quand même moins compliqué parce que de base, il n'y a pas de matière animale. Il a quand même fallu l'équilibrer par rapport au sucre. Là où on se différencie, c'est qu'on n'utilise que des fruits frais et on n'utilise que des bassins, que des fruits qui viennent de notre bassin régional, ce qui nous permet de mettre en avant notre région, de stimuler une économie locale et nationale. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire à travers la SIBA, toute cette cohérence de produits locaux et de produits sains.
Absolument. Alors, est-ce que tu peux nous présenter la gamme Siba aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Alors, on travaille avec plusieurs formats. On travaille avec un format sur du 2,5 litres pour faire de la boule qui s'adapte aux restaurateurs ou sur du glacier pour faire de la vente à emporter. Ou même dans des coffee shops pour faire des milkshakes ou pour faire des sandwichs glacés. Bref, les utilisations que vous voulez si vous avez besoin de faire de la boule. On a un format en 120 millilitres où on a créé des associations de parfums comme une glace lavande avec un coulis de pêche ou une glace au thé vert et au chanvre avec un coulis de cerise ou une glace noisette avec une sauce caramel et des éclats de noisette. On a voulu créer un Ben & Jerry's à la française, on peut dire, où on voulait faire des associations originales tout en restant sur de la gourmandise. Et ensuite, on a aussi un format en 1 litre qui marche aussi très bien, où on propose sur du monoproduit, c'est les mêmes parfums qu'il y a sur du 2,5 litres, mais en 1 litre. On vend sur notre site internet et également sur Pour de Bon, qui est une plateforme qui met en relation des artisans avec des professionnels.
Donc c'est une marque qui s'adresse uniquement à une clientèle professionnelle. Donc les chefs, les restaurants, les hôtels, les épiceries fines.
Oui, ça aussi, mais aussi le particulier via cette plateforme dont je vous parle, dont je te parle, pardon. Qui met en relation justement les particuliers avec les artisans.
D'accord.
Voilà.
Et aujourd'hui, comment les chefs utilisent les glaces Ciba? Tu nous as parlé du milkshake, du sandwich glacé. Est-ce que tu as des retours sur comment ils utilisent tes produits?
Ben, soit ils l'utilisent déjà sur le pot en 120, par exemple, qui est un format clé en main avec. Une petite cuillère en bois à l'intérieur où ils présentent le produit, ça leur évite d'avoir du staff qui fasse la boule, etc. Donc ça s'accorde très bien sur de l'hôtellerie, par exemple, sur de l'espace piscine, de l'espace détente. Ou alors c'est le chef qui a envie de végétaliser un petit peu plus sa cuisine, qui a envie d'avoir un produit un peu plus gourmet, différenciant. Et lui, il va l'intégrer sur ses desserts ou il va les mettre dans son coffee à emporter. Voilà, aujourd'hui on est distribué un peu partout en France, surtout dans les grandes villes, Bordeaux, Nice, Paris, Lille. Et on voit qu'il y a de la demande, surtout dans les grandes villes, hein, et sur un peu tout type d'établissement, surtout de la partie CHR.
Ouais. Et puis c'est vrai que c'est des produits qui appellent la créativité parce que les parfums que tu y mets, les associations fruits secs, ça plaît beaucoup. Ça aussi, ça apporte de nouveaux goûts, en plus de nouvelles textures, puisque c'est une glace différente de la glace traditionnelle. Mais voilà, ça apporte quand même de la créativité pour les chefs.
Tout à fait, tout à fait. Ça, le champ du végétal n'a pas de limite en fait. On est vraiment aux prémices. Donc, quand on mélange les végétaux, qu'on associe à certains parfums justement par rapport à leur typicité, je prends par exemple, on utilise pas mal le lait d'avoine sur les parfums qu'on veut rester neutre, comme par exemple le caramel. Ou une glace au caramel, une glace à la lavande, de la glace à la noisette ou de la glace au chocolat, parce que ça va apporter une texture un peu plus onctueuse, sans forcément apporter une typicité. Le lait de chanvre, on va l'utiliser pour la glace au thé vert matcha, qui va avoir cette note un petit peu herbacée. La glace au sarrasin, on va l'utiliser soit avec un peu de citron, soit dans un prochain parfum, on va l'associer avec du rhum et du raisin. Donc là, pareil, on essaye de trouver. Un rhum qui est fait en France, dans le sud de la France, il y a notamment un qui s'est lancé. Le raisin, pareil. Toujours dans cette démarche où on veut mettre en avant un produit français et justement quelque chose de nouveau, d'original, qui va permettre de se dire aux gens, ah, mais je savais pas qu'il y avait ce produit-là, c'est trop bon, en plus c'est bien fait, il y a 100% plaisir en fait.
Oui, absolument. Et comment tu vois l'avenir du métier de glacier, chef glacier, avec toutes ces nouvelles valeurs et ces nouvelles façons de créer le produit,
Je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde. Ça dépend aussi de la région, ça dépend la demande, ça dépend aussi de la conviction du glacier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le végétal se développe et que de plus en plus de personnes veulent diversifier ou alors veulent avoir une offre supplémentaire sur du végétal. Alors, pas tous sont sensibles au fait que ce soit sans additifs. Nous, aujourd'hui, on est fiers de le mettre en avant parce que c'est une vraie plus-value. Et ça a été un long travail de R&D, donc voilà, je pense que c'est bien d'en faire part. Ça dépend de la personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment un essor sur le végétal. Et dernièrement, cet été, il y a eu un scandale sur une intoxication, pas une intoxication. On dit, il y avait, je crois qu'il y avait de l'éthylène, ils avaient retrouvé de l'éthylène sur du guarcaroube, qui est un stabilisant. Qui est très utilisé sur de la glace. Donc, il y a énormément de glaciers qui sont rabattus vers une solution un peu plus clean. Donc, je pense que c'est l'avenir sur pas mal de ce type de produits-là. Surtout que la glace reste un produit de plaisir qui est très consommé. Donc, je pense que c'est bien de faire attention à ce qu'on mange de plus en plus, hein.
En tout cas, sur ces produits, c'est vrai que entre professionnels, la question des additifs, des sucres revient très souvent. On sent qu'il y a encore une recherche à faire, que il n'y a pas encore de recettes miracles et que les choses sont en train de se construire. Certains optent encore pour des additifs ou des alternatives pas toujours très clean, mais et pour trouver autre chose, une alternative plus saine, c'est pas toujours évident. Encore une fois, ça dépend aussi d'où se trouve le chef de l'établissement aussi, où il se trouve et comment il doit travailler son produit. Mais ouais, il y a encore du chemin.
Oui, c'est clair. Au début, quand on a démarré, on a essayé de trouver des solutions. On a essayé plein de produits, plein de choses, mais c'était très compliqué d'avoir les mêmes résultats sans additifs. Si on les a créés, si on les a inventés, ce n'était pas pour rien, c'est parce qu'on en avait besoin. Donc aujourd'hui, il y en a qui ont du temps et qui peuvent se permettre de chercher d'autres choses, d'autres pas. Puis il y a des choses qui sont déjà en cours. Voilà. C'est comme ça, hein. Je pense que ça finira que par évoluer de toute manière.
C'est grâce à des projets comme le tien que les choses pourront aussi avancer parce que ça montre que c'est possible, qu'il est possible de faire des produits gourmands et sains. En tout cas, le plus sain possible, local, en valorisant une région. Donc voilà, c'est vraiment une belle initiative déjà.
Merci.
Ton parfum de glace préféré?
C'est noisette. Ça a été glace noisette. Ça a été justement notre premier parfum. Et on s'est dit, si on arrive à faire une glace noisette aussi bonne que celle qu'on a l'habitude de manger ou celle qu'on a l'habitude d'aimer, eh ben, on s'est dit que le projet serait viable. Parce que
Si ça
pour
vous
nous,
plaît à vous déjà.
voilà, fallait que ça nous plaise à nous. La noisette, ça a été le premier parfum qu'on a élaboré. Donc, on utilisait une noisette française. Et pour comparaison, la vanille est le produit et la glace la plus consommée, mais et la glace la plus classique, mais c'est la glace la plus compliquée à faire.
Pourquoi?
Parce que, ben, tout simplement parce que les gens ont l'habitude d'avoir une glace vanille faite avec du lait de vache. Et donc, il y a tout de suite une comparaison qui est faite avec un goût. Parce que la texture, ça va. Maintenant, on est vraiment très proche d'une texture lambda. On est vraiment très content. On a vraiment une sensation de crème glacée en bouche. On a vraiment une longueur en bouche. On a vraiment pas du tout. C'est une sensation d'eau. On n'est pas du tout sur un sorbet, quoi. On est vraiment sur de la glace. Et On se régale vraiment. Mais la glace vanille, on a fini là de faire les essais la semaine dernière et on va la lancer. Dans un premier restaurant, la semaine qui arrive là. Mais sinon, ça faisait des mois qu'on essayait. Bon, après, on avait d'autres choses à faire, mais on a fait quand même pas mal d'essais.
Puis j'imagine que l'idée, c'est d'améliorer aussi les processus et les goûts en fonction des retours des clients avec le temps.
Oui, complètement. Complètement. Ben, ça a été le premier constat, comme je te disais au début, les glaces, elles étaient trop dures. Donc, c'est bien de faire une glace clean label sans rien, mais si le produit n'est pas bon, on ne va pas arriver à le vendre. Donc, c'est pas bien, quoi. Donc, il a fallu continuer à bosser, il a fallu continuer à trouver des alternatives pour que ça fonctionne correctement, pour que le restaurateur qui a l'habitude d'acheter sa glace se dise, bon, ben, c'est un bon produit, mais il marche aussi bien. Il n'y a pas de problème sur la qualité, quoi. Parce que, il faut quand même qu'il y ait une facilité de travail. Ça, c'est sûr.
Et alors, les projets pour l'avenir, pour la rentrée déjà peut-être, et pour l'avenir de Siba?
Eh bien, on en a pas mal. On en a pas mal. Dans un premier temps, ce serait de continuer à développer Siba sur le reste de la France. Ensuite, ce serait de structurer certaines filières de l'intérieur, comme par exemple continuer à faire en sorte que la pistache revienne dans le sud de la France. Ou la cacahuète, par exemple, parce qu'on utilise de la cacahuète française sur la barre glacée que nous avons sortie pendant le second confinement. C'est les seuls en France à le faire. Donc voilà, on va continuer à structurer, à accompagner, voilà, c'est nous qui cherchons de nouveaux acteurs pour permettre de retrouver ce type de culture. Ça nous brancherait. Et ensuite, faire une boutique, je pense que ça nous plairait bien pour... aller un peu plus loin justement dans la recherche de certains ingrédients et vraiment faire de cette boutique l'image de Siba
Oui,
à travers la France.
ce serait la suite logique.
Ouais. Donc, tout à l'heure, je reviens sur la partie process parce que c'est vrai qu'on est tu l'as évoqué tout à l'heure, mais j'ai pas relevé. Le processus de fabrication, elle est même qu'une glace normale, hein. On n'utilise pas de nouvelles machines, on n'utilise pas de trucs différents. La seule différence, c'est qu'on fabrique nos laits végétaux, du coup, avec les matières premières, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'on source en France. Ensuite, on ajoute à ça nos sucres qui vont apporter du coup la texture et les fibres et les protéines végétales qui vont apporter toute cette onctuosité. On travaille en turbine. Je ne parle pas de matériel industriel. Nous, on veut rester sur un processus artisanal. Donc, on ne travaille pas en freezer continu. Voilà. Donc, le processus est le même qu'un glacier conventionnel.
Et du coup, tu me parlais de formation au début, quand tu faisais encore de la pâtisserie. Aujourd'hui, tu en es où dans la formation? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses de pouvoir former à ces nouvelles techniques glaciaires? Alors, ce n'est pas vraiment des nouvelles techniques, mais il y a quand même des nouveautés qui s'installent. Est-ce que tu penses ouvrir ton expérience à d'autres professionnels?
Sur la glace,
Oui.
sur le thème de la glace, c'est possible, peut-être pas de suite, parce que on n'est pas encore carré, et puis pour moi, pour moi, ça ne nous branche pas, mais peut-être que d'ici un an ou deux, je pense que oui, on sera beaucoup plus ouvert à faire de la formation sur la glace végétale. Et sur la pâtisserie, je ne suis pas encore carré là-dessus. C'est vrai que j'interviens encore chez les boulangers ou chez les pâtissiers, mais sur la pâtisserie traditionnelle.
Qu'est-ce qui te manquerait en pâtisserie végétale comme connaissances, informations?
Ben, le problème qu'il y a encore un petit peu, je trouve, sur certaines alternatives en pâtisserie, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont... Il y a pas mal d'additifs à l'intérieur. Donc, je serai plus dans une démarche où j'essaierai d'inculquer, ou pas d'inculquer, mais... De former des gens sur une pâtisserie un peu plus saine, ouais,
Ouais, naturel.
naturelle. Ouais. Et ça, j'avoue que j'ai pas trop le temps de m'y pencher dessus.
Ouais.
Je vais revoir un petit peu toutes les bases pour pouvoir proposer un panel assez large pour y avoir une formation complète.
Ouais. Alors, tu fais partie du club, hein, tu es membre du club Institut V. On en parle souvent hein, de la pâtisserie, tu le sais.
Oui.
C'est un sujet qui revient souvent avec ces problématiques.
J'écoute régulièrement, ouais.
Additif. Ouais, c'est un sujet qui revient un peu en boucle, mais qu'il est intéressant de partager entre pros, voilà, pour trouver ensemble les bonnes solutions et partager vos expériences aussi sur ces sujets-là. Toi, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui veulent se lancer dans ce type de glacerie?
Ben, j'ai envie de leur dire, si ça leur plaît, foncez, hein. Il faut, je pense qu'il faut aller vers ça. Nous, on est allé vers là, vers par conviction, parce qu'on fait partie de cette génération qui avait envie de changer un petit peu les choses, de poser sa pierre à l'édifice, de contribuer à un changement global, et ça démarre par l'alimentation. Donc, chaque personne qui a envie de le faire, il faut qu'elle le fasse. Il n'y a pas de petit effort. Je pense que si ensemble on en fait, et ben, il y aura quelque chose qui se fera à une plus grande échelle. Ça, c'est clair.
Alors, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Instagram?
Oui. Tout à fait. Donc, sur Siba Végétal sur Instagram, sur sibavégétal.com sur notre site internet. Ensuite, sur la plateforme Pour de Bon, qui met justement en lien pas mal d'artisans. C'est une plateforme qui met justement en relation des artisans français, l'artisanat français et des particuliers.
Super. Merci Michael.
Merci à toi.
Bon courage pour la suite de l'aventure Siba. Et puis passe le bonjour à Camille.
Ce sera fait. Avec grand plaisir. Bon après-midi.
À bientôt.
Salut.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que notre conversation vous a donné envie de glace, en tout cas, et vous savez à présent qu'elles ont toutes une histoire à nous raconter. N'hésitez pas à suivre Siba sur les réseaux sociaux, sur le compte Siba Glace Végétale, et n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu ou si vous pensez qu'il peut être utile à un professionnel de votre entourage. Je vous invite bien sûr à suivre l'Institut V sur les réseaux, à nous partager vos commentaires ou vos questions. Et si vous souhaitez rejoindre notre réseau professionnel dédié à la gastronomie végétale, je serai heureuse de vous accueillir au club et de vous faire rencontrer toutes ces personnes dont nous parlons régulièrement ici. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien !